Nous sommes toujours à l'émission En profondeur et nous avons en studio Mathieu des Apatrides Anonymes pour une nouvelle saison d'Apatrides Anonymes. Donc, je lui passe la parole.
Merci Léla et bienvenue à En profondeur. Oui, le retour des Apatrides Anonymes pour une cinquième ou sixième saison, ça va être à vérifier pour une chronique aux deux semaines, toujours nous trois, c'est-à-dire Simon, Marie-Ève et moi-même Mathieu. On n'a pas fait de chronique depuis le mois de juin, donc je vais revenir sur quelques événements qui ont marqué un peu l'été dans l'actualité, des choses aussi plus récentes. Peut-être vous dire une nouvelle sympathique et à la fois ironique à Adil Sharkawi, que l'on connaît bien, dont on a souvent parlé à l'émission ici, qui avait été visé par deux certificats de sécurité qui ont été brisés, cassés par les tribunaux, est finalement devenu citoyen canadien. Donc, cet été, a reçu une belle lettre signée de la main de Stephen Harper, qui lui souhaitait la bienvenue dans un pays démocratique comme le Canada. Donc, pour ceux qui connaissent le cas, c'est assez ironique. Peut-être aussi le souligner, parce qu'on parle beaucoup à CKET, à l'émission ici, dans d'autres médias alternatifs, beaucoup des questions d'immigration, de racisme, de déportation. Mais récemment, des médias un peu plus de masse, on peut dire, comme Le Devoir, on fait un dossier spécial sur les enfants sans papier qui luttent contre les commissions scolaires pour avoir accès à l'école, ce qui est quand même intéressant, un dossier complet dans une édition du samedi. Radio-Canada Télé a aussi récemment fait plusieurs reportages sur les conséquences actuelles de la dernière loi sur l'immigration, le C-31, qui est devenue la loi sur la protection du système d'immigration, assez critique, donc c'est assez intéressant de ce côté-là aussi. Dans les nouvelles récentes, en Ontario, arrestation il y a à peu près trois semaines de dizaines de travailleurs dits illégaux, sans papier, travailleurs de la construction, arrêtés dans une opération assez louche, conjointe à la fois de l'Agence des services frontaliers, de l'OPP, du ministère des Transports, du ministère de l'Environnement ontarien, sous prétexte de vérifier la mécanique des véhicules, des camions. Mais dans le fond, avec la présence des agents des services frontaliers, c'était pour arrêter des travailleurs sans papier, donc qui travaillent dans la construction. On a beaucoup en Ontario. Donc, il y a 21 personnes selon la police, 50 selon No One is Illegal qui ont été arrêtées dans la même opération au nord de Toronto. Il y a eu une manifestation quelques jours après aussi contre cette opération et ça questionne toutes sortes de gens et les gens se demandent beaucoup légalement puis aussi légitimement qu'est-ce que ça fait ça ensemble, un ministère de l'Environnement, une police avec l'Agence des services frontaliers pour attraper sous défaut prétexte des travailleurs dits clandestins. Donc beaucoup de débats là-dessus en Ontario depuis quelques semaines, on va vous en parler dans les prochaines semaines. Souligner aussi que samedi dernier, il y avait une manifestation à Laval contre l'internement et l'incarcération des migrants. Rassemblement donc qui a eu lieu devant le Centre de prévention de l'immigration, c'est son terme officiel, sur la montée Saint-François. Quelques jours avant, il y avait eu une manifestation au complexe Yves-Favreau où on retrouve la commission sur l'immigration et le statut de réfugié qui décide des détentions souvent des migrants ici à Montréal. Donc, ces événements étaient pour commémorer ou célébrer ou reconnaître un an de la grève des détenus de la prison de Lindsay en Ontario, qui a fait une grève de la faim pour la plupart d'une soixantaine de jours. Ça incluait quasiment 200 migrants qui sont détenus donc dans cette prison en sécurité maximum en attendant la suite des procédures administratives dans le cas de leur statut d'immigration. Et on fait quand même une grève qui dure encore d'ailleurs. Il y en a qui ont été déportés ou déplacés dans la gang, mais il y a toujours à peu près 200 migrants qui font des moyens de pression pour dénoncer plusieurs choses. Donc, on parle ici dans leur demande, ils ont le fait de relâcher tous les détenus après 90 jours d'incarcération, parce qu'on s'entend que ces gens-là sont accusés de absolument rien, sont juste détenus en attendant leur procédure. Ils demandent aussi qu'aucun migrant détenu soit détenu dans les prisons à sécurité maximum, qui est vraiment pas la place de gens qui attendent leur statut, que tous les migrants devraient avoir accès à des services de base et être dans des prisons plus proches de leur famille, parce que Lindsay s'est vraiment perdu dans le nord de l'Ontario, et aussi que le processus judiciaire soit beaucoup plus équitable, c'est-à-dire qu'il y a accès à l'aide juridique, qu'il y a accès à des programmes pour avoir des cautions et qui a le droit aussi d'être représenté par des avocats pro bono, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc, des demandes qui durent depuis un an, sujet qui est très, très peu couvert par les médias mainstream, malheureusement, mais c'est quand même important. 200 personnes qui font la grève, qui font des moyens de pression. La grève de la faim s'est transformée en cours de route en boycott des audiences de révision de détention, mais quand même, c'est des gens qui sont solidaires. Même les nouveaux qui rentrent embarquent dans le groupe. Donc, c'est intéressant de voir ce qui se passe en Ontario dans cette prison fédérale de Lindsay. Donc, c'est pour ça qu'il y avait des manifs un peu partout à Montréal et au Canada dans les derniers jours. Donc, là-dessus, peut-être vous dire que le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont détenus, des gens, des migrants qui sont détenus, c'est les conséquences de la loi, de la loi sur l'immigration. On peut dire au niveau des chiffres qu'en 2008 et 2011, 82 000 migrants ont été détenus au Canada pour des périodes allant d'une journée à deux ans. Donc, c'est quand même assez important et que c'est vraiment la politique qui est de plus en plus le cas. On le voit avec l'arrestation en Ontario des travailleurs. Donc, c'est un peu ça la situation actuellement qu'il faut dénoncer, qu'il faut aussi documenter. Et comme on disait, malheureusement, pas beaucoup de gens en parlent, à part certains médias comme ici à CKUT. Dans un autre registre d'idées, dans un autre pays, une nouvelle assez dramatique qui est aussi passée un peu inaperçue. Il y a eu un naufrage très important en Méditerranée il y a deux semaines qui a fait 500 morts quand même. C'est la plus grosse catastrophe de ce genre depuis plusieurs années. Si vous vous rappelez, en octobre dernier, il y avait eu beaucoup de tapage autour d'un autre, de deux bateau qui avait coulé, qui avait fait 400 morts près de l'île de Lampedusa en Italie. Là, ça s'est passé en plein milieu de la Méditerranée. Il y a eu officiellement 9 survivants sur 500 migrants qui étaient partis de Libye, qui essayaient de rentrer en Europe. Et ce qui est assez extraordinaire dans ce cas-ci, c'est que selon les survivants, le bateau serait parti d'Égypte, donc avec des Syriens, Palestiniens, Égyptiens et Soudanais, des familles, des enfants seuls, et que les passeurs ont obligé les clandestins à changer plusieurs fois de bateau. Et au dernier bateau, qui était encore plus petit, les gens ont refusé de changer de bateau. Et les passeurs auraient coulé volontairement le bateau et auraient tué tous ces gens-là. Donc on parle ici d'homicide ou de meurtre de masse, donc c'est assez extraordinaire. Pour vous dire que la situation s'améliore pas, dans le même week-end, les bateaux italiens ont secouru près de 2400 personnes qui étaient en détresse dans le cadre du programme Mare Nostrum qui a été mis en place par l'Italie après la catastrophe d'octobre l'année passée. Et peut-être vous dire aussi que plus de 2200 personnes ont péri officiellement ou sont disparues depuis le mois de juin dernier, c'est quand même beaucoup, et que 130 000 personnes sont arrivées en Europe par la mer depuis le 1er janvier, dont 118 000 en Italie seulement. Donc c'est deux fois plus que pendant toute l'année 2013, et on est seulement au mois de septembre. Donc on parle de vraiment d'une situation assez impressionnante. Beaucoup de gens, beaucoup de bateaux partent par la Libye, puisque la Libye, avec la situation politique là-bas, c'est un peu le bordel, donc les passeurs peuvent allègrement faire passer des gens. Les gens peuvent partir, mais il y a vraiment beaucoup de conséquences. On parle de beaucoup plus de gens disparus ou morts. Et c'est quelque chose qui surfe sur l'actualité un peu, mais pas vraiment de façon sérieuse. Et on n'adresse pas les vrais questionnements ou les vrais débats là-dessus par rapport au fait que les gens se déplacent et fuient des situations difficiles. Donc, voilà pour cette très triste nouvelle, mais qui est passée beaucoup plus inaperçue que celle de l'année passée, qui avait fait beaucoup de tapage en Italie, entre autres, et en Europe. Sinon, d'autres nouvelles, plus si on revient ici au Canada. Je sais pas si vous vous rappelez du projet Samosa, des arrestations qu'il y avait eu il y a 3 ans ici en Ontario, au Québec. Trois hommes qui avaient été arrêtés, qui étaient reliés au milieu de la médecine. Il y avait un médecin et deux travailleurs d'hôpital qui avaient été accusés de complot terroriste, comme il y en a eu plusieurs depuis quelques années. Et finalement, un des accusés a été reconnu coupable par un jury en Ontario, et l'autre, donc ça c'est Miss Baoudin Ahmed, et Kouram Shir a été acquitté par un juge. Donc c'est la première personne acquittée en vertu de la loi antiterroriste qui est en place depuis 2002-2003 au Canada. Donc, une loi qui est assez critiquée au niveau de l'accès à la preuve et au niveau de la défense possible des accusés. Donc, que quelqu'un soit acquitté, c'est quand même quelque chose d'assez important. Il y avait une troisième personne qui est accusée dans ce complot-là. On n'a pas eu de nouvelles d'elle, mais vous dire que l'histoire des complots, bon, qui sont souvent malheureusement organisé un peu par certaines agences canadiennes, beaucoup de gens qui sont embarqués par des agents provocateurs. Dans ce cas-ci, il y avait ça aussi, et là finalement quelqu'un a été acquitté, donc ça va peut-être reviser certaines démarches des autorités. Aujourd'hui, il en parlait beaucoup dans les médias. Depuis quelques mois, on a une nouvelle obsession au Canada. On appelle ça, attendez un instant, le terme est assez spectaculaire. On parle des voyageurs extrémistes, c'est-à-dire ce qu'on parle de ces jeunes hommes d'origine arabe, musulmane ou autre, qui se seraient, ou certains qui se sont convertis à l'islam, qui s'en vont combattre supposément avec des groupes islamistes à l'extérieur du Canada dans des zones de guerre. Et ben c'est ça, il y a beaucoup d'obsessions là-dessus. Les médias en parlent énormément. Officiellement, selon le rapport qui est sorti, qui s'appelle Rapport public de 2014 sur la menace terroriste au Canada par le ministère de la Sécurité publique du Canada, on parlerait de 80 jeunes hommes qui seraient ciblés ou reconnus, peut-être jusqu'à 130 qui seraient hors du pays, mais on parle vraiment d'un petit nombre de personnes, mais on en fait beaucoup parce qu'on aime ça parler de terrorisme au Canada et agiter toutes sortes de fantômes et d'épouvantails. Ce rapport-là fait suite à la stratégie antiterroriste du Canada qui a été publié en 2012, ça permet de renforcer la résilience face au terrorisme. Je suppose que vous vous rappelez, on avait parlé ici à l'émission, ça parlait aussi que à part les militants islamistes, il y avait les écologistes, les anticapitalistes, les défendeurs des droits des animaux qui étaient des menaces. Mais là, on revient juste aux extrémistes islamistes. Et puis, on a fait beaucoup de tapage là-dessus parce qu'on a entendu le cas de certains Canadiens qui ont été tués en Syrie ou en Irak ou en Somalie, qui avaient joint supposément quelques groupes radicaux. Donc, c'est drôle, dans le communiqué officiel du gouvernement du Canada, on parle d'un petit nombre de personnes ayant des liens canadiens se rendant à l'étranger pour participer à des activités liées au terrorisme, mettant des vies en danger et entachant la réputation du Canada. Ça, c'est dans le communiqué officiel de Stephen Blaney, ministre de la Sécurité publique. Et on dit aussi qu'il y a une nouvelle loi, une nouvelle facette de la loi terroriste qui est rentrée en vigueur en juillet 2013, qui a rendu comme une infraction le fait de quitter ou de tenter de quitter le pays pour aller faire des infractions terroristes à l'extérieur du Canada. Et comme en Angleterre, on commence à parler ici d'enlever la citoyenneté à des gens qui pourraient éventuellement aller à l'extérieur du pays combattre dans des groupes radicaux. Donc, c'est assez important au niveau des libertés individuelles. Donc, c'est sûr que on parle beaucoup de ça, on parle beaucoup à cause de l'État islamique actuellement, mais il faut surveiller quand même ce genre de démarche-là du gouvernement qui a tendance à mettre tout le monde dans le même paquet et à stigmatiser des communautés souvent entières et des groupes au complet. Donc, peut-être on va vous en parler. Et on souligne aussi que dans le rapport que la GRC fait des liens avec les communautés musulmanes, arabes et autres pour faire de la prévention, et on dit que ça marche pas beaucoup. Je me demande pourquoi la GRC n'a pas beaucoup de succès dans ce genre d'initiative de prévention quand on sait qu'ils font aussi beaucoup de profilage racial eux-mêmes dans leurs interventions dans les banlieues pauvres ou dans les quartiers pauvres de nos grandes villes. Il me reste peut-être que quelques minutes pour vous parler d'un sujet à l'international assez particulier. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une entente qui serait sur le point d'être signé entre l'Australie et le Cambodge. Vous savez que l'Australie a une politique envers les migrants qui arrivent de façon non officielle très, très sévère. C'est-à-dire que tous ceux qui arrivent sur les côtes australiennes sont renvoyés vers deux îles, l'île de Nauru et une île qui se trouve en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc, c'est comme s'ils les renvoyaient tout de suite dans un autre pays, mais ils ont des ententes où les prisons, dans le fond, australiennes pour les migrants se trouvent là, sur ces deux îles-là qui sont dans la même région. Et là, il y a un accord qui serait sur le point d'être signé pour une somme de 40 millions de dollars ou 30 millions d'euros. Le Cambodge accepterait 1000 migrants qui sont dans les prisons australiennes. Donc, on vend carrément des migrants dont on ne veut pas, qui sont surtout des Iraniens, des Irakiens et des Kurdes. Et cette initiative-là fait suite à la campagne qui s'appelait Stop the Boats, qui avait été faite par le premier ministre actuel. Donc, un de ses thèmes de campagne, c'était de renvoyer les boat people, finalement. Et il passe de la parole aux actes. Il avait essayé avec la Malaisie il y a quelques années, mais finalement, la Malaisie avait refusé. Il n'était pas membre de... n'avait pas signé telle convention, donc ne pouvait pas accueillir ces gens-là. Donc, en Australie, il y a 20 000 réfugiés qui arrivent par la mer chaque année. Donc là, on veut se débarrasser de 1000 personnes. Et évidemment, ben, c'est critiqué à peu près tout le monde parce qu'on parle de transfert de gens contre de l'argent. Le Cambodge est absolument pas équipé pour recevoir ces gens-là. Actuellement, ils ont 68 réfugiés et 12 demandeurs d'asile. On leur demande d'accueillir 1000 personnes d'un coup. La situation des droits de la personne au Cambodge est assez déplorable aussi. C'est une dictature dans les faits avec beaucoup d'exactions, beaucoup de répression contre toute forme d'opposition. Et évidemment, c'est un des gouvernements les plus corrompus au monde, donc cet argent-là ira sûrement pas pour les réfugiés. Donc la seule garantie qu'il y aurait pour ces gens-là, c'est que l'Australie leur dit que l'argent va bien aller pour leurs services et leur confort et leur sécurité là-bas, mais il n'y a rien de moins sûr. Et au niveau général, on sait que l'Australie se distingue de plus en plus comme le pays le plus répressif et le plus inaccueillant pour les gens qui cherchent une meilleure vie. Et on se retrouve finalement avec une entente qui serait aussi une première ou un précédent, donc que d'autres pays pourraient faire la même chose, c'est-à-dire renvoyer des gens en payant des pays plus pauvres pour s'en occuper, ce qui est assez dangereux comme perspective. Donc, c'est à peu près ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Beaucoup de sujets qu'on approfondira dans les prochaines semaines, qui vont revenir dans l'actualité. Et voilà. Donc, dans deux semaines, ça sera Simon Marie-Ève qui feront la chronique des Apatrides Anonymes.
Merci.
Merci.